Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une loi spéciale pour arrêter le massacre des poulets. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, se dit prêt à venir siéger cet été si jamais il fallait légiférer d'urgence dans le conflit Excel d'or. M. Bérubé réagit aussi à Grégory Kelly, ce député libéral, qui l'a intimé sur Twitter d'arrêter de, et j'ouvre les guillemets, s'en prendre à la communauté anglophone. Enfin, si Claire Samson passait au Parti conservateur, le chef du M pourrait-il venir faire ses conférences de presse dans le hall avec elle, un peu comme le fait Paul Saint-Pierre Plamondon avec Pascal Bérubé. Mais d'abord, on revient sur un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps. L'avenir de l'Occident au Cégep.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Éliminer les contenus liés à l'Antiquité et au Moyen Âge dans le cours d'histoire obligatoire en sciences humaines au Cégep aurait évidemment été une grande perte. Et mon prochain invité avait sonné l'alarme dans Le Devoir et ici, à ce micro, à Là-haut sur la colline, en septembre 2020. Bonjour Nathan Murray.
Bonjour Antoine. Merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Vous êtes doctorant en quatrième année en histoire romaine, enseignant aussi à l'Université Laval et au Cégep Garneau. Je me demandais, là, la ministre a fait des annonces dans les derniers jours. Est-ce que vous considérez qu'elle a sauvé la civilisation occidentale au Cégep?
Je dirais que c'est un peu pompeux de le dire, mais assurément, elle a pris une décision qui est au-delà des attentes de la plupart des enseignants d'histoire, notamment en ajoutant un élément de compétence qui reconnaît explicitement que le cours doit aborder les héritages historiques antérieurs au 15e siècle dans la formation de l'Occident.
Donc, c'est ça, oui. C'est ça qu'on voulait faire, là, une espèce de grand cours qui, maintenant, n'était plus centré sur l'Occident, l'histoire de l'Occident, puis on partait du 15e siècle. On mettait aux poubelles, dans le cours obligatoire en sciences humaines, donc cours obligatoire d'histoire, le Moyen-Âge et surtout l'Antiquité. C'était terrible.
Oui, c'est ce qui me semblait, à moi et à plusieurs collègues, absolument indéfendable de se restreindre ainsi aux époques présentes en se coupant de toute une partie de notre héritage, d'une partie de la culture générale aussi qui était transmise par ce cours, parce que ne serait-ce que pour lire des articles de journaux ou certaines analyses parfois un peu plus pointues, les références à l'Antiquité abondent, au Moyen-Âge aussi, parfois plus qu'on pense, l'histoire architecturale aussi, l'histoire du christianisme qui est beaucoup liée donc à la fin de l'Antiquité et à la période médiévale, mais tous ces éléments-là auraient été évacués du seul cours obligatoire des étudiants en sciences humaines en histoire.
D'ailleurs, pour parler de la décision de la ministre, on avait beaucoup, c'est-à-dire on a à notre disposition plusieurs images qui datent de ces époques. Une décision à la Salomon, hein?
Oui, c'est ça. Donc, on ménage la chèvre et le chou un peu dans cette décision-là, parce que la compétence reste effectivement la même que celle qui avait été suggérée dans la première mouture de la réforme, donc expliquer les fondements de l'histoire du monde du 15e siècle à nos jours. Donc ça change pas. C'est donc une précision dans le descriptif qui vient en quelque sorte permettre ou insister sur l'histoire de l'Occident. La manière dont ça se voit n'est pas claire encore.
Non.
Ça permet de façon certaine de refaire une sorte d'histoire chronologique, mais ça permet aussi, selon l'appréciation du professeur ou du collège, de fonctionner par retour en arrière, donc commencer chronologiquement au 15e siècle, mais revenir de manière régulière sur certains points thématiques sur l'histoire ancienne. Donc, c'est pas un retour à l'ancien énoncé, mais c'est davantage un compromis, mais un compromis qui vient avec un élément d'une importance capitale qui est l'ajout d'une quinzaine d'heures au cours obligatoire. Donc, on passe de 45 à 60 heures. Mm-hmm. Ça, très sincèrement, c'est vraiment ce qui fait toute la différence et un peu ce qui fait en sorte que tous les enseignants en histoire, peu importe le thème de cours qu'ils soutenaient, sont ravis parce que ça fait donc des années qu'on le demande et que mes collègues le demandaient.
Est-ce qu'on peut utiliser une autre métaphore de l'Antiquité qu'elle a tranché le nœud gordien?
Mais elle le tranchait fort habilement, en effet, donc d'un mouvement très très rapide de son glaive, mais c'est effectivement, avec moins d'impétuosité peut-être qu'Alexandre le Grand,
oui.
mais on reste, donc il y a eu une belle écoute de la part de la ministre. Qui a notamment rencontré les partisans, ou plutôt les défenseurs des deux camps un peu plus tôt cet hiver, qui a pris le temps de mûrir sa réflexion et qui finalement a pris en compte un peu les opinions de tous. Donc, ça reste un cours d'histoire du monde, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais on rajoute dans l'énoncé l'Occident et surtout donc ces périodes anciennes du reste qui n'ont sens que dans une histoire de l'Occident, parce que le Moyen-Âge, autre part que dans l'Europe occidentale, ça ne fait pas grand sens.
Est-ce que tout ce débat nous fait pas comprendre que de plus en plus, avec de nouvelles analyses, on a du mal à se voir comme occidental et à se perpétuer comme occidentaux. Est-ce que ça montre pas ça que les gens qui veulent étudier l'Occident sont de plus en plus considérés comme des gens un peu fermés sur une civilisation dominatrice qui s'est adonnée à l'horreur du colonialisme, ce qui est, selon moi, simpliste, mais est-ce que ça devient pas majoritaire dans les sciences humaines?
Je dirais pas que c'est majoritaire. Au début, je refusais un peu de croire que c'était l'une des raisons qui faisait en sorte qu'on proposait ce cours-là. Mais effectivement, après les discussions avec des collègues, après la déclaration de la présidente de la PHCQ, donc l'Association des professeurs d'histoire du collégial hier aussi, je dois avouer que ça penchait dans la balance et qu'effectivement, ce sont des voix qu'on entend. Et ça me semble dommage. Donc, sans vouloir faire de l'histoire de l'Occident ce qu'on appelle un roman national, ou sans vouloir
Oui, il y a comme exclure... une possibilité d'une espèce de nationalisme civilisationnel ici.
Oui, c'est ça. Alors que l'histoire peut être extrêmement extrêmement critique et que quand j'enseigne la Rome antique, je ne fais pas loin de là une apologie des Romains, pas plus que je les défends, je les étudie tout simplement, je les analyse. Et à bien des égards, le regard porté sur ces époques anciennes-là est très, très révélateur. Et aussi, souvent, la distance du temps nous permet d'être des enjeux qui seraient peut-être plus sensibles aujourd'hui, des questions historiques plus prégnantes. Souvent, on en trouve une sorte d'écho dans les époques anciennes qui nous permet une étude un peu moins passionnelle, un peu plus posée de l'impérialisme romain, par exemple, au lieu d'étudier cet impérialisme américain. La question de l'esclavage antique aussi peut servir d'une sorte de mise en contexte fort pertinente.
Vous travaillez sur la fin de la République au doctorat à Rome. Et comment la fin de la République peut nous... quel type de parallèle on peut faire avec les démocraties qu'on peut qualifier en crise, qu'on peut dire en crise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux époques?
Si on se rappelle que la République romaine n'a jamais été, contrairement à nos régimes, une démocratie, mm-hmm. c'est davantage une oligarchie, mais effectivement, il y a des parallèles qu'on peut faire, notamment dans l'effritement, je dirais, de certains consensus autour d'institutions communes, de valeurs communes, une sorte aussi de dégénérescence du langage, un recours à un langage très, très tranché, le retour du grand discours sur l'ennemi public qui a été manié très, très bien par Trump et qui peut l'être aussi dans d'autres franges à gauche comme à droite de la société. Donc, cette mise au banc, l'opposant politique ou l'adversaire devient un ennemi à abattre, et ce recours aussi au peuple comme une sorte d'entité théorique qu'on ne sait trop ce qui est défini par cette entité-là, mais on s'en réclame de manière toujours plus urgente, toujours plus certaine. C'est un danger qu'il y avait à la fin de la République. Et il faut jamais oublier que ce peuple dont on se réclame souvent, c'est un peuple qui n'a aucune réalité, qui gomme mm-hmm. Les différences et qui finalement, habituellement, sert à introduire un pouvoir plus concentré, moins consensuel, moins démocratique.
Mm-hmm. Dans la Rome républicaine, les patriciens votaient seulement. Voilà, c'est ça.
Les riches plébéiens et les patriciens, donc c'était essentiellement les familles, ce qu'on appelle la nobilitas, une sorte d'aristocratie composée, mais effectivement, souvent, c'était un vote censitaire par catégorie de richesse, et on atteignait la majorité sans avoir recours généralement aux classes les plus pauvres. Donc, ce qui veut dire que les classes les moins importantes votaient rarement. C'était ce qu'on appelait le principe de l'égalité géométrique. Plus on fait pour la cité, plus on participe, notamment sur le champ de bataille, plus on participe mm-hmm. par sa fortune, eh bien, plus on a de pouvoir politique. On n'est pas loin, ceci dit, de l'idée de M. Duhem, qui voulait que, donc, plus on paie cher d'impôts, on ait de droits de vote.
Ah oui, mais aux États-Unis aussi, il y a des tentatives de restreindre le droit de vote. Et c'est bon, peut-être qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire, non?
Effectivement, ces essais de repousser hors du corps citoyen des gens qui juridiquement en font partie, ça rappelle plusieurs choses. L'Italie, les Romains ont été déchirés au début du 1er siècle avant Jésus-Christ par ce qu'on appelait la guerre sociale, donc le refus notamment d'intégrer les autres Italiens à leur corps citoyen, de leur donner leurs droits politiques. Donc, on faisait tout pour les écarter. Des lois ont été passées, d'ailleurs, pour les chasser de la cité, par exemple. Et ça rappelle, à certains égards, le traitement réservé aux migrants ou à certaines communautés afro-américaines aux États-Unis. Donc, cette tentation de resserrer le vote sur une communauté nationale en ce qui a trait à Rome, mais disons une communauté citoyenne. Mm-hmm. Et la grande leçon, c'est qu'au terme de la guerre, même si les Romains l'ont remporté, ils ont concédé la citoyenneté à tous les habitants de l'Italie, donc tous ceux qu'ils appelaient leurs alliés pour faire fonctionner cette cité-là, parce que sur un grand espace, ne peut pas ou peut difficilement se gouverner par un principe d'exclusion, par exemple.
Très bien. Mais merci beaucoup, Nathan Murray, d'avoir témoigné de votre satisfaction de la décision ministérielle.
Oui,
et d'avoir avec... Je vous remercie aussi d'avoir avec moi démontré un peu de le grand intérêt de se replonger un peu. Là, on ne l'a pas fait très longtemps, mais chez les anciens, pour mieux se comprendre, qui c'est un peu... La source de la Renaissance, hein?
Oui, c'est effectivement, je ne voyais pas du tout comment enseigner la Renaissance sans recourir à ces exemples romains, enseigner la Révolution américaine, enseigner la Révolution française, initier au patrimoine artistique, au patrimoine intellectuel. Tout ça, maintenant, espérons-le, va toujours pouvoir s'enseigner, se transmettre, s'analyser aussi. Et véritablement, ce 15 heures de pluie aussi, je pense qu'on est plusieurs à s'en réjouir. Et je suis certain que les élèves vont d'abord et avant tout en bénéficier.
Merci infiniment.
Un grand plaisir, merci.
On parlait donc à Nathan Murray, doctorant en quatrième année, enseignant à l'Université à Laval et au Cégep Garneau.